Bienvenue dans le Paris Central Show. Aujourd'hui, on est avec Basto, on est avec Dryas pour le retour de vacances. Je sais qu'ils vous ont manqué sur la chaîne. Bon, bah, les voilà, vous les avez demandé dans les commentaires. Maintenant, vous allez devoir assumer tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils vont dire. Bah, ce sera pour votre pomme, parce que c'est vous qui les avez réclamés. Aujourd'hui, on va parler du PSG le plus dominant de l'histoire. Peut-être on va rester un peu plus sur QSI, mais on va essayer quand même de voir avec vous dans les années où peut-être nous, on n'était pas nés, où on était trop petits. Est-ce que vous avez déjà vu un PSG qui roulait encore plus sur la Ligue 1? Donc là, on va essayer de voir au niveau des scores, au niveau aussi de la vision des équipes adverses. Parce que là, par exemple, tous les supporters des équipes adverses avec qui je parle, ils me disent « Putain, on n'a pas hâte de vous rencontrer en Ligue 1 ». Parce que là, franchement, j'ai l'impression que tout le monde a peur d'affronter le PSG. Est-ce que vous avez déjà connu ça avant? On va déjà commencer avec Basto. Basto, est-ce que tu as déjà vu ça?
Bah déjà, ça fait que 3 matchs de Ligue 1. Donc, c'est sûr que c'est un petit échantillon.
Plus le trophée des champions.
Monsieur Rabat-Joie, là.
Plus le trophée des champions, mais ça fait que 4 matchs. Après, si tu me parles de est-ce qu'on a déjà connu ça de peur des adversaires, si c'est des adversaires ou si c'est des supporters adverses, oui, à l'époque, on disait que sous Laurent Blanc, les équipes venaient pour se faire battre. Mais est-ce qu'après le PSG était dominant? C'est une autre question. Mais il y avait ce côté où le PSG venait battu, ce qui n'est pas encore le cas d'ailleurs contre le PSG actuel. Lille ne vient pas du tout en victime contre Paris et joue son jeu. Donc c'est différent, mais voilà, une équipe qui a peur en rencontrant PSG, il y a eu sous Blanc, pas moi, hein. Moi je ne défends pas forcément ce PSG de Blanc, mais c'est ce qui se disait.
Et toi Darius?
Bah, comme Basto, après sous Blanc, si c'était dominant, il faut le dire, les équipes elles venaient pour se faire ouvrir. La grande différence avec cette saison, mais comme Basto l'a dit, on n'y est pas encore, hein, et notamment ce soir, enfin demain soir, va y avoir le test avec Monaco sans Vitinha. On va voir l'impact que ça aura. Mais la grande différence, c'est aussi le niveau de la Ligue 1. Le niveau de la Ligue 1 n'a plus rien à voir avec la fameuse saison où Laurent Blanc, où en gros les équipes elles viennent se faire ouvrir. Enfin, rien que tu regardes au niveau des coachs, le jour à la nuit, t'as Bosch, t'as Clemente, t'as Francesca, t'as etc. T'avais absolument pas ce panel-là à l'époque de Laurent Blanc. Donc si on arrive à faire en fait ce qu'on a fait sous Laurent Blanc cette saison, en sachant que la Ligue 1 elle a monté, on pourra clairement dire que cette saison, mais on n'y est pas encore, on est beaucoup plus dominant encore que l'époque où c'était Laurent Blanc.
Mais Laurent Blanc en Ligue 1, c'est un leurre, hein. C'est un mensonge. Enfin, c'est pas un mensonge, mais c'est quelque chose qui est réinventé. Il est beaucoup moins dominant qu'un Unai Emery, même si Emery perd un titre. Blanc, il prend moins de points en moyenne qu'Emery, il marque moins de buts, il a une différence de buts qui est plus faible si tu prends toute la différence. On a cette impression qu'avec Blanc, on battait toutes les équipes 4-0 et avec Unai ou Tourelle, c'était plus compliqué. Mais c'est faux, c'est faux. On marque moins sous Blanc que sous Tourelle ou sous Pochettino, mais sous Unai Emery. Sous Blanc, alors oui, on est dominant, comme tu l'as dit, Seb, dans une équipe. Déjà des clubs qui n'ont pas des coachs comme actuellement, quoi, qu'il y avait quand même Ranieri ou Bielsa, mais des équipes qui finissent.
C'est pas vrai, il n'y avait pas Bielsa encore.
Si, il y avait Bielsa. La troisième année de Blanc, il y a Bielsa.
Mais par rapport à ce que je dis, mais justement, moi, je ne parle pas de toute la période de Blanc. Je parle vraiment de la deuxième saison où c'est une saison où les équipes elles viennent pour se faire ouvrir, littéralement.
Non. Alors, la deuxième année de Blanc est la plus compliquée. On n'est que deuxième à la 29e journée. C'est la troisième où on domine tout et la Bielsa est partie, effectivement. Mais au-delà de ça, oui, si tu parles que de la troisième année de Blanc, effectivement, tu as l'impression d'avoir.
C'est ça, c'est ce que je dis. Je faisais pas.
Mais c'est une année où le second finit à 67 points cette troisième année-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette différence. On a l'impression que le PSG mettait 10 euros à tout le monde, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, cette ère blanc est un peu, on va dire, si on prend l'ère blanc, pas que cette troisième année, mais les trois années, c'est un peu, c'est quand même pas surcoté, mais il y a un côté un peu, plus le passé passe, plus on refait les choses de belle manière, tu vois. C'est comme Tourelle, maintenant, on va lui trouver des trucs plus beaux qu'avant. Même Unai, on commence, des gens qui n'aimaient pas à dire, ah, c'était pas mal quand même. Donc on a toujours une tendance à surcoter le passé.
Je vais juste réagir sur deux petites choses. La première chose, c'est Basto, fais gaffe, tu es en train de te simbadiser sur certaines réactions. Fais attention, tu glisses. Garde la ligne basse tête, elle te va bien mieux. Sinon, oui, non, mais oui. On se rejoint sur l'ensemble des temps. Mais vraiment, il y a cette saison où c'est même pas on marche sur l'eau, c'est vraiment les équipes elles viennent pour se faire punir. Mais moi, ce que j'ai envie de mettre en exergue, justement, c'est que, et non pas en comparant avec tout blanc, mais en comparant juste avec cette saison, si cette saison on continue sur les bases sur lesquelles on est lancé, parce que là, c'est hallucinant, le Neymar, il en est presque à 4 actions décisives par match, tu pourras dire que, effectivement, cette saison, on est beaucoup plus dominant que toutes les autres saisons sous QSI.
Après, il y a une année, la deuxième Dounaï, qui n'est pas ma préférée, je préfère la première, mais la deuxième Dounaï en Ligue 1, on a un PSG qui est aussi ultra dominant, qui met des cartons, qui met des 4-0 à Angers, 5-0 à Bordeaux, 5-0 à Rennes, qui fait une série, je crois, de 15 matchs, de 15 victoires de suite. Bon, après, il y a la Ligue des Champions dedans, mais c'était l'époque où on met 8-0 au Celtic, etc. Mais sur cette série de 15 matchs, on a bien 10-11 en Ligue 1, donc 10-11 victoires de suite, et par plus de 2 ou 3 buts d'écart. Et c'est un PSG qui finit meilleure attaque de l'histoire de la Ligue 1 cette année-là.
Mais déjà, je vais vous demander un classement entre guillemets sur les dernières années. Déjà, on va sauter Pochettino parce qu'il n'a rien à faire là. Déjà, entre le PSG de Tourelle qui impressionnait tout le monde et le PSG d'Emery que moi, personnellement, j'ai préféré parce qu'il y avait une maîtrise. Parce que ça aussi, c'est un sujet que j'aimerais aborder. Parce que oui, il y a les scores. Oui, il y a par exemple le PSG de Tourelle, peut-être il marquait, mais j'ai l'impression qu'il maîtrisait un peu moins les matchs que le PSG de Emery, par exemple. Et là, j'aimerais vous demander, au niveau de la maîtrise des matchs, est-ce que vous sentez que le PSG de Galtier, il est au-dessus de tous ces autres PSG-là aussi ?
Alors, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Déjà, il y a une chose, c'est qu'on commence à... On en est au balbutiement des certitudes, mais en plus de ça, même les certitudes qu'on a, elles sont soumises à conditions. Déjà, par exemple, à Monaco, on va être privé de Vitinha, t'as Ramos qui saute, qu'est-ce qui se passe ? Et Ramos qui saute, c'est quand même une probabilité, etc., etc. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Pour réagir à ce que tu disais, pour moi, ça se résume assez simplement. Tourelle, c'était la maîtrise du jeu sans ballon, et Emery, c'était la maîtrise du jeu tout court. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie maîtrise. Emery, il y avait un côté assez simpliste dans sa manière de jouer. Un pressing qui était médian, pas forcément très haut, tout de suite écarté sur les ailes, aller à pleine bourre devant, mais c'était ça jouait vraiment pour marquer, c'était plaisant, etc., etc. Maintenant, si on réussit à trouver l'équation sur la durée qui est celle qui est en train de se dessiner, ouais, il y a moyen que ce soit au-dessus. On n'y est pas encore, mais il y a moyen que ce soit au-dessus.
Thomas, toi, t'en penses quoi?
Oh non, c'est pareil, c'est bien trop tôt. Alors, des séries de 3 matchs comme ça dominants, je pense qu'on en a fait, que ce soit sous Tourelle, que ce soit sous Blanc, que ce soit sous Unai, peut-être pas sous Pochettino, effectivement. Après, c'était pas non plus les mêmes conditions, on va pas refaire l'histoire. C'est la première année depuis 2017 où on a une vraie prépa physique, ce qui aide forcément et fortement. Donc voilà, on est bien préparé, on est bien pour le moment. Maintenant, qu'est-ce que ce sera déjà en novembre après la première partie de cette phase de poule de Ligue des Champions, et qu'est-ce qu'on sera après la Coupe du Monde, c'est une autre question. Donc on verra à ces moments-là.
D'ailleurs, vous pensez que ça va continuer sur cette dynamique? Parce que là, on a par exemple Mickaël qui nous dit « C'est quoi votre prono pour le PSG Monaco ?»
Les pronos avec cette équipe, va pronostiquer un truc 5-0, 6-1, 7-2, va pronostiquer des trucs pareils. Moi, j'ai envie de dire 3-1. Moi, ce que je vais plus que le
chrono. Copieur, j'en ai marre.
Plus que le chrono, ce qui m'intrigue, et pour ça, je vais passer un petit tacle à la basse-tête encore une fois. Ce qui m'intrigue, c'est quel va être l'impact de l'absence de Vitinha. Par qui il va être remplacé déjà. On sait que Vitinha, c'est vraiment le joueur qui assure vraiment le lien entre le milieu et l'attaque. C'est celui qui poursuit les actions, qui apporte le turn devant. C'est celui qui écarte sur les ailes. Et d'ailleurs, les 15 premières minutes à Monaco, il faut en parler parce que, contrairement à Basso, moi, je l'ai pas
Lille, pris.
À Lille, ouais, parce qu'il est.
Si t'es dans le futur et que t'as déjà vu le match contre Monaco. Ou en plus, Vitinha est suspendu.
Et attends, parce qu'il y a ton petit tacle qui arrive. Et après, tu vois, enfin, il y a certains supporters, voilà, qui vont interpréter la déclaration de Basso sur
Basto
Sanchez. Pardon, de Basto.
J'étais en conférence de presse hier.
Ah oui, enfin, je voulais dire
Galtier.
En gros, c'est toi qui interprète le truc de Galtier, qui va dire du bien de Renato Sanchez. On ne sait pas pourquoi il dit ça. La com des coachs, il faut toujours la prendre avec mesure. Peut-être qu'il dit ça tout simplement parce qu'il a vu que Renato Sanchez a pas fait forcément une très très bonne rentrée justement contre Lille. Il a besoin de le mettre en confiance. Il sait qu'il aura pas Vitinha, donc on va éviter d'aller aux conclusions.
Je n'ai absolument pas interprété. J'ai dit que ça me faisait peur. C'est différent. J'ai pas dit que ça voulait dire ça ou ça.
Et voilà.
Et ça me fait peur, effectivement, parce que Galtier peut très bien se mettre Renato devant Vitinha, ça m'étonnerait pas.
Je pense pas. Je pense que Vitinha.
Après, c'est pas le sujet du live.
Mais Vitinha, il a mis tellement
de points. T'as dit 3-1 contre Monaco. Moi aussi, je voulais dire 3-1. Et ça va être intéressant de voir, justement, avec un autre milieu et justement l'impact d'un Vitinha, est-ce qu'il est vraiment si important que ça ou pas? Et est-ce que ce qu'on voit, notamment un Neymar et un Marco qui jouent peut-être plus simple avec un relais entre les deux, est-ce qu'avec un Renato qui a un profil différent, ils vont continuer à jouer simple ou ils vont devoir être forcés de nouveau à rentrer dans des, les dribbles individuels, etc. Ça peut être une chose intéressante du match.
Alors, je vais reprendre la question du live et avec un autre aspect, parce que là, on a parlé d'être dominant, mais il y a quelque chose aussi, une question que j'ai vu passer dans les commentaires qui nous aide à répondre à cette question. C'est le guide qui nous dit « ce serait cool de faire un clean sheet ». Alors, moi, je me rappelle qu'il me semble que, je crois que c'est Tourelle qui fait un nombre de matchs encaissés de buts qui est assez long. Je ne sais pas si vous en rappelez.
Oui, c'est probable.
Oui, et c'est sous Blanc qu'on a la meilleure défense.
Mais c'est le truc, en fait, si tu veux, c'est est-ce que tu préfères gagner 7-2 ou tu préfères gagner 1-0?
Bonne question.
Après, sur la durée, c'est vrai que dominant, 7-2, si tu fais 7-2, d'un coup, tu perds, tu fais 3-3.
Oui, non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est moi, je préfère de temps en temps prendre un but, avoir un déséquilibre assumé. Et si tu t'assures d'en marquer beaucoup plus que l'adversaire, ça ne me pose aucun problème. Le délire, justement, tu vois, tu parlais de Tourelle, parce que pour moi, ce qui caractérise Tourelle, c'est le jeu sans ballon. Mais c'était d'une pauvreté. Enfin, on en était, tu sais, le fameux 7+3, on n'a pas besoin de refaire les plans sur la comète, ou etc. C'était pass the ball to Neymar et laisse Neymar se démerder tout seul devant. Et peut-être qu'il arrivera à trouver Mbappé, quoi. C'était d'une pauvreté infinie dès qu'on avait la balle. Et moi, ça ne m'excite pas du tout, ça.
Après, attention, parce que par exemple, contre Lille, on concède quand même un nombre de situations, pas forcément d'occasions franches, ouais, mais qui est assez important, notamment la première demi-heure où on s'en sort très bien en étant qu'à 1-0.
20 minutes.
Les 20-25 premières, ouais, où tu as Bamba qui rate plusieurs situations, mais si c'est pas Bamba et que c'est un Haaland ou je ne sais qui, ou si c'est Munich en face, tu te fais ouvrir. Hein, il y a plusieurs situations où ils sont en 4 contre 3.
Je suis pas d'accord avec ça. Je reviendrai.
Bah, vas-y. Bah, reviens maintenant.
Justement, sur ces 20 premières minutes, moi, c'est vraiment un des points forts, c'est un des éléments qui m'a rassuré. Alors après, tu as raison sur un truc, Bamba, c'est pas Coman, il faudra voir justement face à des attaquants qui sont et plus complets et beaucoup plus rapides, des attaquants, des ailiers, etc., etc. Mais il y a une chose qui est notable, et ça s'est très bien vu, notamment au travers du jeu de Jonathan David. Jonathan David a tout fait, mais vraiment, il a été très très bon dans ces 20-25 premières minutes pour essayer de trouver des positions préférentielles pour avoir des bonnes frappes. Et si tu regardes, Lille a pas mal de frappes dans les 20-25 minutes, et à chaque fois, c'est limite des passes aux gardiens.
Oui, mais ça, c'est leur faute.
Laisse-moi finir. À chaque fois, c'est limite des passes aux gardiens. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au niveau des compensations, on était bien. Moi, j'ai beaucoup plus été inquiété, en fait, par notre utilisation du ballon pendant les 20 premières minutes que par la pseudo mise en danger pendant ces 20 minutes, parce que concrètement, les frappes lilloises, c'est rien. Et c'est pas parce que les Lillois étaient trop lents. Jonathan David fait 20 minutes qui sont exceptionnelles. Revois les 20 premières minutes de Jonathan David.
J'ai revu plusieurs fois ces 20 premières minutes. On est déséquilibré avec un milieu qui se fait trouer sur ces 20-25 premières minutes.
Là, on est d'accord.
Et défensivement, alors il y a des compensations qui sont plus individuelles que collectives, je trouve, parce que Lille est souvent en position de 4 contre 3, voire parfois à 5 contre 3. Donc quand tu es en surnom, même si tu as un joueur qui fait le bon plat pour empêcher qu'il y ait une bonne frappe, c'est que de base, si le joueur n'a pas une bonne frappe, c'est aussi qu'il y a eu un mauvais choix de base, notamment Yacizi qui n'a pas forcément bien orienté, etc., qui aurait dû donner à droite ou à gauche. Il y a eu d'extrêmes mauvais choix dans l'avant-dernier geste et pas le dernier geste de Lille qui font que Lille n'est pas en bonne situation, et ça, il y en a énormément.
Je pense pas là-dessus. Autant je te rejoins sur la première, sur la porosité du milieu et sur les compensations individuelles. Là-dessus, je te rejoins. Mais non, justement, j'ai trouvé que Lille était très bon et j'ai trouvé que ses compensations étaient particulièrement intelligentes. Et je pense que bien sûr, encore une fois, avoir face, je sais pas, tu prends Munich en face, bah, tu pourras pas te permettre autant de largesse. Mais avoir, j'ai l'impression qu'on a trouvé une assise défensive justement qui est extrêmement prometteuse.
Alors, il y a des commentaires qui me dirigent vers d'autres sujets. C'est toujours dans la dominance de la Ligue 1, mais il y a Mickaël, par exemple, qui nous dit « Quelle équipe de L1 peut battre Paris ?» Et en parallèle, j'ai le Giggs qui nous dit notre bête noire, le Stade Rennais. Alors, le Stade Rennais qui a une bonne équipe, est-ce que ce ne serait pas cette saison l'équipe la plus difficile à jouer pour vous ?
Voilà. C'est compliqué à dire. De toute façon, on va avoir des… Quelle équipe peut battre déjà le 11 du PSG type ? Et parce qu'on n'aura pas toujours le 11 type, là, on va commencer à enchaîner des matchs chaque 3 jours. Quelle équipe ce sera quand d'un coup, on va se retrouver peut-être avec une équipe avec Ekitike, Mukiele, Saraba titulaire qui n'ont pas d'automatisme entre eux ? Ce sera quelque chose de très différent. Maintenant, quelle équipe peut battre ce 11 du PSG-là, le 11 type, on va dire, si Paris fait le top ? Il n'y en a pas beaucoup. Tu as peut-être, je ne sais pas, un Lyon dans un grand jour. Lyon aussi est une de nos bêtes noires et peut nous fait souvent… nous embête souvent. Rennes, ça a été cité. Puis tu as d'autres équipes, je ne sais pas, des équipes peut-être sur une surréussite, une équipe un peu chiante qui sait bien défendre. Mais ça, c'est compliqué à répondre à ce genre de questions.
Perso, on n'est pas assez avancé dans la saison pour avoir des certitudes. Pour Rennes, je suis plus inquiet. Moi, j'ai l'impression que ça va être un peu l'année où ils vont s'enfermer dans leur truc. Et du coup, j'ai du mal à croire que Rennes posera vraiment des problèmes, surtout qu'a priori, ils vont perdre Major. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou si ça va se faire, mais si c'est le cas, ça va avoir un impact énorme. Et après, il faut voir ce que devient le Marseille de Tudor. Est-ce que Philippe Clément, parce que Philippe Clément, à chaque fois, la saison dernière, c'était un départ catastrophique, mais en deuxième partie de saison, c'était une équipe qui était bien plus chiante à jouer, à voir. Et puis, est-ce que ce 11 type, au-delà du fait de pas tout le temps avoir le 11 type, pour l'instant, on a une promesse de 3 matchs. Est-ce que c'est une promesse qui va s'installer sur la durée? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Maintenant, on a envie d'y croire. Maintenant, j'ai envie de croire que aucune équipe ne va poser de problème à partir du moment où on aura le 11 type. Mais c'est juste trop tôt.
Pour faire mon rabat-joie de service, les équipes qu'on bat en Ligue 1, Montpellier 5-2, le dernier match, on leur met 4-0 chez eux. Lille 7-1, on leur met 5-1 chez eux l'année dernière. Et l'autre, c'est quoi? C'était Clermont 5-2 cette année, on leur met 5-1 ou 6-1, non, 5-1 l'année dernière chez eux. Donc voilà, c'est des adversaires qui ont réussi à Paris en deuxième partie de saison. Bah, après, c'était pas tout à fait Paris dans le jeu, effectivement.
Je n'ai pas trop parlé de Lens.
Ah, Lens.
Oui, mais Lens...
Ça sera un match ouvert avec des transitions. Ah, ça peut, ils peuvent. Après, c'est vrai qu'ils font toujours des erreurs défensives qui fait qu'ils encaisseront des buts à un moment donné.
Le truc, c'est qu'on est tellement fort offensivement. Pas forcément dans l'amener du ballon. Il y a encore trop de touches de balle. Il y a encore pas assez d'écart. On écarte plus sur les ailes, mais c'est pas assez. Il y a encore plusieurs choses à revoir. Mais une fois qu'on arrive à toucher les trois de devant dans de relativement bonnes conditions, et on y arrive quand même avec une fréquence beaucoup plus élevée, une équipe comme Lens, qui a encore beaucoup de naïveté derrière, peut se faire ouvrir. Et tu vois très bien ce qui s'est passé, contre Lille, parce que tu vois, enfin, on parle de Lens, mais parlons de Lille, du Lille de Francesca. Il y a ce premier but qui est ubuesque à la 8e seconde, et puis ensuite de ça, il y a le deuxième but à la 25, et là, les choses commencent à se rouiller côté Lillois. C'est-à-dire que les Lensois, s'ils s'en prennent, ils y vont, machin, ouais, on y va, on lâche rien, on perd aucun duel, machin, bidule chouette, ils s'en prennent deux, bah après, va te relever quand tu sais qu'en face de toi, il y a toujours Neymar.
La question, c'est combien de temps Neymar et Messi à ce niveau?
C'est ça.
Au moins jusqu'en novembre, j'ai envie de te répondre.
Moi aussi.
Avant de préparer tranquillement la Coupe du Monde, c'est ça?
La suite, je ne suis pas devant.
Les gars, on va parler d'un niveau un peu plus européen déjà. Alors là, déjà, il y a Mickaël qui nous dit, est-ce que ce ne serait pas inoubliable d'être invincible? Peut-être que les joueurs en tête, ils ont ce challenge en tête qui va peut-être les pousser dans le match toute la saison, parce qu'en fait, ces dernières années, on voyait bien qu'ils n'étaient pas motivés dans les matchs, surtout les petits matchs. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va leur donner de la force? Et en parallèle, comment vous nous comparez avec les autres gros européens? Parce que là, il y a Mehdi qui nous demande, par rapport au Bayern et à City, où est-ce que vous situez le PSG?
Alors, pour la première question, c'était quoi déjà? C'était...
Invincible.
Ouais, enfin, toi, le truc, c'est que tu fais une saison et tu fais un match comme contre Ajaccio qu'on avait fait, où t'as genre 49 frappes, ils en ont une ou un truc comme ça. Bah, il y a des matchs, ça arrive des fois d'en perdre et c'est vraiment pas un truc que je retiendrai en fin de saison. Enfin, le truc de l'invincibilité, ouais, c'est un truc qui fait les titres des journaux. Mais toi, ce que t'as envie de voir en tant que supporter, c'est juste que ton équipe joue bien et des fois, la malchance, elle est là et le foot, des fois, le plus faible arrive à s'en sortir et il faut l'accepter. Après, pour Bayern et City, ils ont des certitudes, surtout quand on parle du Bayern, qu'on est très très loin d'avoir. Eux, ils ont un jeu en place qui est plusieurs années. Ils ont fait une petite révolution avec Nagelsmann, qui a mis une petite année de transition qui maintenant se met en place. Ils ont des certitudes quasi à chaque poste. Ils ont des remplaçants quasi à chaque poste. On en est encore loin, je pense.
Pour l'invincibilité, je suis comme Draya, je sais pas. Après, ça peut être des petits challenges. Que les coachs lancent des petits challenges individuels. Par exemple, Galtier a parlé à Neymar de battre peut-être le nombre de passes décisives. Je crois qu'il l'a plus ou moins sous-entendu en conférence de presse. Ça peut être un challenge pour Neymar. Devenir la meilleure attaque qu'on était devenu sous Unai, battre la différence de but. Ça, c'est des choses petit à petit. Et c'est plus qui peuvent être données comme objectif, mais secondaire, parce que finir invincible la saison, si on se fait chier qu'on élimine en 8e de Ligue des Champions, ça rimera pas à grand chose. Concernant Munich et City, bah, pareil que Draya, je pense que Munich, surtout dans la manière dont on joue, en plus, eux, pour le coup, ce serait compliqué. City, je... Ouais, non, non, non. Je pense qu'on est encore en dessous des deux. Et surtout Munich, comme l'a dit Drayas.
Et juste, Basto, faut que, quand tu m'appelles, il faut que tu fasses gaffe à lire le nom qui est marqué, que j'ai mis. On ne le voit pas avec les commentaires, mais je me suis donné un autre nom. Et sinon... Ah non, je voulais dire un truc.
T'as oublié Gauvin Cers.
Tu peux pas taper sur un truc comme ça. Après, les gens, ils sont obligés de Google. Je voulais dire un truc, je sais plus ce que j'avais du coup.
Bref, en attendant, pendant que Daria s'y réfléchit.
Pardon.
Zaz veut chanter.
Les gars, aujourd'hui, on va faire un petit truc particulier. Si jamais vous voulez donner votre avis sur le sujet dans lequel... Arrêtez de faire des têtes, là, les gars. Si vous voulez donner votre avis sur le sujet où on parle actuellement, vous pouvez aller sur Twitter, vous mettez le hashtag Paris Central et on vous fera monter dans l'émission pour que vous puissiez donner votre avis. Vas-y, Draya, je te redonne la parole.
Bah, c'est juste, j'ai vu un commentaire, Farmers League, etc., etc. Il y a, la Ligue 1, oui, elle est pas encore au niveau de la Première Ligue, c'est peu que de le dire. Mais la Ligue 1 progresse. Il y a un moment où ce serait bien d'arrêter de cracher sur notre championnat, de rester dans cette logique-là. Surtout qu'elle est, alors, au niveau des instances, c'est une régression constante, mais ça, quand t'as Le Graët et que t'as, non, Le Graët, c'est la FFF, mais je sais plus qui sont les gars, non, c'est la Brune, etc. C'est difficile d'attendre quelque chose, mais en tout cas au niveau du terrain, que ce soit au niveau des coachs, que ce soit au niveau des idées pratiquées dans le jeu, que ce soit au niveau des choix de joueurs, il y a de plus en plus de cohérence, il y a des vrais progrès, il y a des vrais projets. Là, on prend Toulouse qui est une équipe qui est bon contre le PSG, ça sera ouvrir violemment, mais qui est au niveau de la logique, au niveau des choix faits. Enfin, c'est un peu de respect pour cette Farmers League parce que c'était vraiment une insulte qui était à la mode il y a 7-8 ans, mais les choses changent, je trouve.
Bah, suffit de regarder la gueule des milieux de terrain des équipes. Avant, tu avais souvent des bouchers au milieu. Maintenant, tu regardes le milieu de Lyon, c'est que des techniciens. Marseille, c'est un Guendouzi, mais sinon, c'est un rongier derrière.
Guendouzi, c'est entre les deux.
Oui, c'est pour ça que je dis, ils ont quand même un Guendouzi. Mais ce n'est pas non plus le gros bourrin typique de la Ligue 1 des années 2010.
Et Rongier, ce n'est pas du tout ça. Fin...
On se souvient qu'avant le milieu type de l'équipe de France qui représentait un peu ce qu'était le football français, c'était tout l'allant la Sanadière. Tu vois, on est quand même sorti un peu sorti de cela. Même si là, c'était un bon joueur.
Mais là, je voudrais avoir votre avis aussi, c'est que il y a le côté footballistique, mais j'ai l'impression, comme on parlait des records, que Galtier va réussir à motiver les gars avec des petites choses comme ça. Là, quand je vois les vidéos à l'entraînement, les trucs comme ça, quand je vois, il joue à Pierre Papier Ciseaux, les trucs comme ça, j'ai l'impression que là, en fait, il a réussi à développer quelque chose, genre en mode l'ambiance au sein du vestiaire participe grandement à l'entente sur le terrain. Et chose que tout le monde, et on sera tous d'accord, qu'on n'a pas vu chez Pochettino l'année dernière. Mais même chez Tourelle, je ne me rappelle pas avoir forcément vu ça. Et peut-être ça remonte peut-être jusqu'à Laurent Blanc. Et encore, je ne me rappelle pas avoir vu une aussi bonne ambiance dans le vestiaire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, au niveau de la boîte à fantasmes, on a Sacramento qui est le génie tactique et Galtier qui est le génie humain. Maintenant, tu sais, c'est toujours les trucs qui sont comme ça. C'est alors après le Chifoumi, moi je l'ai pas vu, je vais laisser Basto le raconter parce que j'ai hâte d'avoir les détails parce que ça avait l'air d'être assez épique. Mais c'est toujours, c'est-à-dire qu'au début ça commence, les nouveaux coachs machin, t'enchaînes 3 matchs, 4 matchs avec 5 buts d'écart, je crois minimum à chaque fois. Enfin, le tarif il est à chaque fois hallucinant. Inévitablement, la bonne humeur elle sera là. Faut voir comment la saison va évoluer. Il semblerait que Galtier ait un vrai talent humain et j'en veux notamment pour cette déclaration qui a inquiété la basse-tête, qui est sur Renato, que j'ai trouvé particulièrement à propos, notamment après les critiques que Renato s'est pris à juste titre après son entrée contre Lille.
Ouais, c'est pas pris beaucoup de critiques, le Renato.
Si.
Ah bon?
Je tiens quand même à dire qu'avant même son arrivée, vous deux, vous étiez des contre-Renato. Donc là, je crois que vous allez continuer à... S'il fait la moindre glissade, vous allez lui tomber dessus. Ça, je le sens toute la saison.
Non, c'est pas notre Di Maria.
C'est pas votre genre.
J'étais moins dur que Vasso sur Renato. Hein. Je lui voyais une utilité en sortie de banc, moi.
Bah, tu verras s'il y a une utilité en titulaire demain soir. Le Chifoumi. Pour rentrer dans les détails, Draias, mais je pense que c'est pour travailler le changement d'appui. Je ne sais pas exactement. En fait, tu as deux joueurs qui partaient de positions opposées. Ils se retrouvaient au milieu de terrain, du coup. Ils faisaient un Chifoumi. Et je crois que le gagnant, il devait vite partir à droite pour aller marquer dans un petit but et le faire dans sur le côté gauche. Donc, en fait, je pense que c'est tout de suite prise de décision. Tu perds vite, appui à droite, tu vois. Je pense que c'est un truc automatisme de changement d'appui rapide. Après,
l'interprétation. En soi, c'est sans doute une super bonne idée parce que déjà, c'est fun. Enfin, t'as un truc, qu'est-ce que tu fais? Et ça te fait complètement, en fait, t'es d'abord dans une logique foot. Ensuite de ça, tu sors complètement d'une logique foot et tu dois tout de suite te replonger dans la logique foot. Et ça te permet, en fait, de garder tes acquis, même s'il y a un événement extérieur qui est indépendant. Mais en soi, c'est super drôle, quoi. Le mec qui a eu l'idée de mettre ça en place, il s'appelle Sacramento, c'est un génie.
Après, pour répondre à l'ambiance, c'est vrai que ça fait 2 mois, c'est un peu la lune de miel pour le moment, les résultats sont là, tout est beau. Alors, il y a eu la petite embrouille Neymar-Mbappé qui a été bien gérée en interne. Qu'est-ce qui se passera à la première défaite? Qu'est-ce qui se passera quand on va avoir une période un peu plus complexe? On verra. On dit que sous Tourelle, il y avait une très bonne ambiance. Finalement, il y a eu pas mal de guerres de clans qu'on émaillait ici, là, et ça a fini en autre boudin, comme souvent les troisièmes années de Tourelle. Sous Unai, il y a eu aussi certains joueurs. Bon, t'avais un peu le clan Cavani et des Français contre, donc toujours cette guerre des clans. Sous Pochettino, finalement, il y a peu de joueurs qui ont quelque chose à reprocher à Pochettino humainement. Je crois qu'humainement, ça s'est plutôt bien passé, notamment avec Mbappé. Et sous Galtier, on verra. Mais pour le moment, ça se passe bien. Et il y a Galtier, il y a aussi justement Campos, parce que si c'est bien géré Neymar Mbappé, c'est que tu as plus d'ordre autour sur le terrain. C'est ce qui fait que tu n'as plus cette guerre de clan avec toutes les mesures qui ont pu être prises. Et c'est plus facile pour le coach dans ces cas-là.
Et je voulais rebondir justement au commentaire de Lucas Machin. C'est une vraie interrogation. Le duo Campos-Galtier, ça avait très bien fonctionné à Lille. Et quand Campos s'est fait la malle, c'est devenu vachement plus compliqué, même s'il y a les gars en bout. C'est une vraie question. Qu'est-ce que Galtier va, une fois Campos part? Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'avait signifié le départ de Campos, c'était le départ de Sacramento. Et ça aussi, ça a un gros impact. Donc effectivement, mais là-dessus, on ne peut pas se projeter sur le futur. Et pour l'instant, on a Campos, Sacramento.
Il a signé combien de temps, Campos? 3 ans?
Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait.
Les gars, j'ai peut-être raté un épisode. Je ne me rappelle plus comment s'est terminé la Ligue des Champions l'année dernière. Mais il y a OK qui nous dit l'absence de Kimpembe face à la Juve. Il a été suspendu au dernier match.
A priori, oui.
Il a dû prendre un troisième jaune en moins de 10 matchs ou
C'est complexe.
C'est le premier match.
C'est complexe et ça se touche une zone où pour l'instant, le remplaçant naturel, c'est Diallo. Mais Diallo, c'est quoi son temps de jeu? Est-ce qu'il sera encore là? Est-ce que machin? Est-ce que truc?
Je pense qu'il mettra Ramos à gauche et Mukiele à droite.
Voilà, ça serait la meilleure réponse. Après, la problématique, si tu fais ça, si tu veux, c'est que tu t'es construit un Ramos où tu as construit tout un tas de certitudes sur la droite, tu le passes à gauche. Tu prends un Mukiele
D'ici là, il y aura peut-être une recrue aussi. Hein.
Voilà, c'est tant qu'on n'a pas cette recrue en centrale qui nous fait défaut, en fait. C'est le genre de nouvelles. Dès qu'il y aura un blessé sur la ligne arrière, on sera un petit peu en PLS en train d'essayer de trouver une combinaison pour que ça fonctionne.
Mais c'est vrai que ça arrive dès le premier match contre la Juve. Au parquet, attention, a priori ça devrait le faire, mais il ne faut pas le rater. Le premier match au parc contre la Juve, c'est pas forcément le meilleur départ de calendrier. Quoi.
Si tu le rates, tu te mets dans la mouise et pas qu'un peu. Le deuxième match, c'est
Maccabi.
Et après, tu as la double confrontation avec Benfica.
Il sera à capitale. Si tu perds contre la Juve, tu es obligé.
Mais tu n'as que 3 points après les 2 premières journées. Ça peut vite devenir compliqué. Ouais.
Là, on a une question de Sax qui nous dit quand il va faire tourner l'attaque, pensez-vous que ce n'est pas là où on va avoir des problèmes d'ego? Il y a ça aussi. J'ai vu aussi que là, bientôt, en 21 jours, on va jouer 7 matchs. Là, il va falloir gérer. Les mecs, surtout Kylian Neymar, qui n'acceptent pas de sortir. Et après, au final, tu vois, sur les matchs d'après, ils ne sont pas frais, ils veulent jouer tous les matchs, tout le temps. Est-ce que vous pensez que Galtier pourra gérer ça mieux que ses prédécesseurs?
J'y vais.
Si tu veux.
Donc, déjà, en soi, il n'y a même pas besoin de faire tourner pour qu'une embrouille puisse apparaître. Mais la chose rassurante sur ce sujet-là, si indépendamment de faire tourner, c'est la manière avec laquelle ça a été géré.
C'est vrai qu'on a oublié Danilo en décès. Hein. Il nous rappelle
qu'il peut jouer Danilo à gauche.
Ouais, c'est plus en doubleur de Marquis.
Voilà, c'est vraiment central Danilo pour le coup. Mince, j'ai oublié. On parlait de quoi là, du tweet? C'est quoi la question?
Putain, t'es relou. la gestion de la rotation.
Ah oui, pour les voilà, donc ils peuvent se prendre la tête tout seul, mais ce qui est rassurant, c'est la manière avec laquelle le penalty gate a été géré, alors que le penalty gate, ça fait quasi la une de tous les journaux pendant une semaine, on avait un Neymar qui tirait la gueule de 25 km avant, a priori tout ça s'est géré, peut-être un peu de manière ostentatoire. Ça va dépendre en fait du talent de la gestion humaine de Galtier. C'est vraiment ça la clé. Pour l'instant, il a passé le premier test. Des problèmes, il y en aura de toute façon, que ce soit par les remplaçants et que tout à coup, Ekitike qui fait un super match et qu'il y en a un qui est jaloux parce que s'il ne va pas savoir. Pour l'instant, il a passé le premier test. C'est sûr qu'avec trois mecs comme ça, peut-être Messi qui serait celui qui poserait le moins de problèmes, mais avec trois mecs comme ça, des problèmes, tu en auras plein. Il faudra qu'il passe les autres.
Alors, tu dis que ça peut, est-ce qu'il va mieux gérer ça que dans le passé ? Il faut savoir que cette année, c'est une année particulière parce qu'on n'a jamais eu de période avec 21 matchs, justement, avec 7 jours en 21 matchs. Là, tous les matchs sont resserrés avec la Coupe du Monde. Donc, on se retrouve vraiment enchaîné des matchs, même de Ligue 1, dans un temps plus resserré, plus la Ligue des Champions, qui normalement est entre septembre et décembre et qui là, va se finir en novembre. Donc, les joueurs, s'ils se retrouvent sur le banc, mais qu'ils savent que 3 jours après, ils jouent la Ligue des Champions et qu'ils sont sur le banc une fois, disons, sur 3 ou 4, ils diront rien parce que c'est le même rythme que l'année dernière, c'est juste que le rythme est beaucoup plus resserré.
Il y a Lucas qui nous demande des nouvelles sur Fabian Ruiz et Skriniar. Alors, pas du tout, on n'est pas insider, j'en sais rien du tout. Juste, je trouve que la négociation avec Naples, j'espère que ça ne va pas se faire comme ce que je vois sur Twitter. Déjà, on doit payer pour libérer Navas, en plus 30 millions sur Ruiz. Je trouve qu'ils ont tendance à nous prendre pour des cons, comme l'Inter d'ailleurs.
Pourquoi sur Twitter, tu dis que ça, ils disent que ça ne va pas se faire ?
Non, c'est pas ça. En gros, tu libères Navas en payant et ensuite de ça, ils te vendent Ruiz au prix fort. C'était ça.
Ah, il y a peut-être du nouveau qui est OK qui nous dit qu'apparemment on est sur un deal à 22 millions.
C'est ce qui se dit en Italie, ouais, 22 plus bonus, c'est déjà bouclé. Ils attendent juste son départ du milieu parisien.
Et pour le DC, ouais, il faudrait, mais avec Skriniar, a priori, enfin, moi, Skriniar, j'étais toujours en train de dire qu'il fallait attendre la dernière semaine et tout, mais il y a eu cette espèce d'écho qui sonne comme une fausse note d'un
acteur
qui est allé en Italie, pour aller dire, Animiti, vous ne les voyez pas, ben nous, on est allés, on récupère gratuit. Et, je pense que, franchement, t'es en négociation avec Inter depuis un mois, t'as le mec qui est au-dessus de toi qui fait ça, mais comment t'es en PLS? Le mec, il te fout tout par terre. Quoi.
Bon, mais après, on n'a pas de plan B. Si on a fait ce que Skriniar, il n'a pas de plan B.
Bah.
Aussi, le plan B, c'est 10 assis de Monaco. C'est plus un plan F, tu vois.
Je vais juste répondre à Y rapidement. Vous pensez quoi de l'embrouille supposée avec Enrique ? Alors, c'est des rumeurs. Donc.
C'est peut-être un peu plus que des rumeurs, mais après, moi, j'ai tendance à être sur la ligne d'Enrique, c'est-à-dire que il faut vendre, oui, il faut machin, mais on est obligé d'arrêter de passer pour des pigeons, pour le pigeon Saint-Germain habituel. Et il y a un moment où faire la mue du pigeon Saint-Germain, bah, ça se fait en une saison et ça te coûte de l'argent, tout simplement, de pouvoir faire ta mue pour tout simplement être pris au sérieux. Et je crois que faire des cadeaux à tout va, il y a un moment où il faut arrêter. Donc, je suis plutôt sur la ligne d'Enrique temporiser s'il faut, et tant pis, plutôt que sur la ligne de Campos, qui lui ne pense qu'aux sportifs et aux logiques sportives. Il y en a un qui est, je pense qu'il y a Enrique qui est dans une logique de moyen terme, et Campos qui est beaucoup plus dans une logique de moyen-long terme, et Campos qui est beaucoup plus dans une logique de court terme-moyen terme, et inévitablement, ça génère des clashs.
En fait, ils sont chacun dans leur rôle. C'est sûr que Galtier en avait rajouté une petite couche en conférence de presse en disant « c'est à Enrique de vendre maintenant parce que nous, on attend des joueurs ». Hier, il l'a dit, il a remis une petite couche en disant « les joueurs sont prêts à arriver, mais il faut des départs ». Donc voilà, Galtier-Campos, ils sont dans leur rôle. Enrique l'est aussi. Et il y a sûrement, du moins en partie, une espèce peut-être de petite guerre d'ego entre Enrique et Campos pour savoir qui prend la place, qui peut avoir un peu plus de pouvoir. Il y a eu cette rumeur comme quoi Enrique s'est octroyé la prolongation d'Mbappé alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà. Ils jouent aussi chacun leur place. Ils se placent. Je pense qu'Enrique essaye de se faire un peu de place derrière ce duo qui laisse pas beaucoup de lumière.
Alors, on va passer à un sujet qui va un peu plus fâcher et plus divisé. Juste avant de répondre à cette question, il faudra que vous répondiez à cette question aussi. Est-ce que vous connaissez Nikola Milankovic de la Fiorentina pour le poste de DC ? Et ensuite, on va enchaîner sur la question. Pourquoi on s'enflamme autant sur Neymar alors que c'est 3 matchs ? Alors que je pense que le fond de la question... c'est que le niveau de Neymar n'a jamais été vraiment le problème. C'était plus la continuité sur toute une saison. Et là, du coup, Noah, il se demande pourquoi on s'enflamme autant alors que peut-être, entre guillemets, on connaît peut-être la suite.
Mais je vais laisser par la base te répondre après parce que le décès de la FIO, je le connais un peu, mais pas assez bien, moi.
Milinkovic, c'est quelqu'un qui est assez régulier, qui est considéré parmi les meilleurs défenseurs de Serie A depuis maintenant 3 ou 4 ans. C'est quelqu'un qui était sur la shortlist de la Juve si Bremer ne se faisait pas, et c'est quelqu'un qui était sur la shortlist de l'Inter si Skriniar partait au PSG. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est suivi par les gros clubs italiens, mais qui pour le moment n'est pas parti. C'est un joueur assez complet, mais qui n'a pas le niveau d'un Skriniar. Ce serait plus un bon joueur de banc qu'une vraie plus-value titulaire. Enfin, c'est mon avis après.
Et sur la question, mince, c'était quoi la question,
Sur Neymar.
Neymar, ouais.
Flamade.
Après Neymar, les gens s'enflamment au-delà de ses stats parce que d'un coup, il se met à jouer simple et à se réinventer, ce qui était ce que les gens demandaient, que ce soit ceux qui défendent Neymar ou ceux qui ne défendent pas, c'est est-ce que Neymar est capable de se réinventer? Et là, il se met à jouer simple, à arrêter ses prises de dribble intempestives, ses touches de balle en trop. Maintenant, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est parce que le système lui permet d'être mieux à cette place? Est-ce que dans les moments plus difficiles, quand il y aura 0-0, tu vois, et non pas 5-0 ou 3-0, il va de nouveau rentrer dans une espèce de rôle du sauveur où je veux aller marquer? Je ne sais pas. C'est compliqué à dire. Pour le moment, c'est pas vraiment s'enflammer, en fait. Pour le moment, on est tous obligés de reconnaître et de dire que Neymar fait un début de saison exceptionnel. On espère tous que ça va continuer. Maintenant, dire est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'il va retomber dans ses travers, ça, c'est impossible à répondre. Avec Neymar,
j'ai le verre un peu plus plein que toi jusqu'en novembre, pour le coup. Neymar a besoin de... sa place, elle est assurée au Mondial, mais il a besoin de se rassurer, de rassurer son coach, de rassurer son pays, de rassurer ses équipiers. Il a été extrêmement critiqué au Brésil, etc. Et donc, je pense qu'on a un Neymar qui est extrêmement motivé pour être bon au moins jusqu'en novembre. La grande question, ce sera après, justement, à partir de février, après la Coupe du Monde. Et pour aller aussi dans le sens de Basto, il y a Vitinha. Vitinha, ça change tout pour Neymar. On a un Neymar qui redescend de temps en temps. On le voit d'ailleurs, sa participation défensive a été très très bonne, hein, contre Lille. Mais on a un Neymar qui redescend de temps en temps, mais il redescend à bon escient. Alors qu'avant, il redescendait tout le temps. Et il y avait jamais personne devant. Et alors là, quand il redescend, t'as Vitinha qui se projette devant et il a un relais devant lui, etc., etc. Donc Vitinha a tout changé pour Neymar. Il y a la motivation et Vitinha qui font que moi j'ai tendance à me dire que l'enflammade elle risque de durer beaucoup plus que 3 matchs.
Il aura fallu attendre l'arrivée de Campos pour comprendre, parce qu'on a quand même ces dernières années, on a été pour Neymar, Mbappé, et ensuite Messi. Il faut des coureurs au milieu pour courir pour eux. On a tout fait de travers. Et là enfin on a compris que bah non, il faut des relais techniques qui leur permettent de se retrouver dans des zones.
J'ai pas vu les stats, mais il doit avoir des stats de kilomètres parcourus qui doivent pas être dégueu, Vitinha, parce qu'avec le nombre de projections qu'il fait, il fait pas mal.
Pas non plus les stats. C'est très dur à trouver en Ligue 1. Mais, il les a avec l'UEFA.
Mais je pense que pour le coup, c'est un mec qui court pas mal. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin d'un coureur. On avait surtout pas besoin d'un coureur. Enfin, c'était pas ça. C'est comme Modric. Tu sais, il y avait à un moment, c'était sorti les stats Modric Gay.
Ah, Modric. Modric, il est couru.
Non, mais Modric avait
couru. Ah, il court énormément, Modric.
2 km de plus, Ganagay. Et Ganagay, c'est l'archétype du coureur. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte, c'est juste parce que les mecs, ils sont techniques, du coup, on ne les voit pas en train de se déplacer, mais ils se déplacent vachement, en fait. Et toute cette mythologie du mec qui court, qui est physique au milieu, putain. Mais heureusement, nous, on en est revenu. La Ligue 1 commence à en revenir. Et heureusement, ça fait du bien.
On a même eu un temps de décalage par rapport à la Ligue 1, quasiment, nous.
Oui, en plus, oui. On a mis plus de temps à le comprendre. Oui.
Alors là, je vois qu'on est 175. Alors les gars, je vous explique, s'il n'y a pas 100 likes sur la vidéo, parce que là, si vous êtes là, c'est que vous kiffez, je vais vraiment me fâcher. Soit on va faire un live, on va parler que de l'OM, sinon je continue, je ramène Rabiot. Qu'est-ce que vous voulez pas voir encore? On prolonge Kurzawa encore 4 ans. Likez le live. C'est quoi ces manières? Soyez polis, là. Vous êtes à...
Sabi, il a cru que tu donnais une info que Kurzawa prolonge en 4 ans, je crois.
Kurzawa prolonge en 2028. Likez le live, bordel. Allez, je vais encore continuer à travailler votre mémoire. Petite question rapide avec une autre question derrière. Alors, la petite question rapide, c'est le Guiz qui nous parle de De Vrij. Qu'est-ce que vous pensez également si on se positionne sur De Vrij? Et honnêtement, la question que je vois régulièrement sur les réseaux depuis quelques jours, pourquoi laisser partir Paredes pour prendre Ruiz? Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne idée, mais je vous laisse en discuter.
Bah, Paredes, c'est un milieu bas, oui. C'est un milieu qui n'est pas tout terrain. Tout terrain, c'est un mot qui est gâché par Ganagay, donc on va éviter de l'utiliser. mais c'est un milieu qui est utile dans toutes les zones du terrain. Paredes, c'est un milieu bas. C'est un milieu bas qui est bon défensivement, qui est bon dans ses passes, même si ses passes, elles sont pas sous... le ratio de prise de risque dans ses passes est beaucoup trop faible. Et c'est un milieu qui reste très bas, qui ne sert qu'à ça. Alors après, c'est, tu vois, enfin voilà, Paredes, c'est un Regista, c'est un Regista. Maintenant, est-ce que c'est un Regista du niveau de Pirlo? Il en est loin. Et Ruiz, c'est un milieu qui est beaucoup plus utile, qui est utile devant, qui est capable de se projeter, qui s'est écarté sur les ailes, qui se déplace, qui est capable de défendre. Enfin, c'est juste deux joueurs qui sont incomparables. Et Kurzawa, oui, non, Kurzawa.
Non, mais t'avais d'autres sujets. Je t'avais posé deux questions.
Ah ouais, mais tu sais, moi
de Vrij,
j'ai. De Vrij. Je me souviens plus en vrai.
Inter, Pays-Bas.
Vas-y, réponds.
Non, De Vrij a fait une énorme année sous Conte l'année dernière où il était même peut-être supérieur à Skriniar cette année-là. Maintenant, De Vrij des années d'avant, c'est plus régulier. L'année dernière, c'était plus compliqué. Donc voilà, De Vrij, il a, je crois, déjà 30, plus de 30 ans. C'est pas une piste pour l'avenir, ni même pour le présent, ou alors sur un ou deux ans. Donc De Vrij, c'est un très bon joueur, mais je pense pas qu'on doive se positionner là-dessus. Sur Paredes, plus que Bas et Ruiz milieu haut, Paredes est un joueur qu'on va dire assez monotache et qui a une forme d'intelligence, mais pas dans tous les secteurs de jeu, alors que Ruiz a une intelligence qui est beaucoup plus globale, on va dire.
Justement, à ce niveau-là, en fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'on s'est débarrassé plus de Paredes, parce que aussi, déjà, il a eu des grosses performances en Europe et du coup, il y a des gens qui ne voulaient pas qu'il parte. Mais on se rappelle aussi que c'était dans un milieu à 3. Est-ce que dans une défense à 3, avec un milieu à 2 en y mettant double pivot, que Paredes pourrait jouer dans une formation comme ça? Moi, j'ai des gros doutes, personnellement.
Moi, c'est même pas des gros doutes, ça n'a aucun sens. Après, tu le fais jouer avec qui? Oui, tu peux le faire jouer avec Vitinha, mais tu as Vitinha qui, si jamais Vitinha il monte, il se retrouve, tu as Paredes qui se retrouve isolé. Enfin, il y a un jeu de compensation qui s'organise avec Marco Verratti. Marco Verratti a une intelligence tactique sur le terrain du placement qui n'a rien à voir avec celle de Paredes. Paredes, Paredes, c'est un très bon plot.
Tu vas pas plaire à tout le monde. Sinbad a quitté le live.
Non, ok, t'abuses. Moi, je suis d'accord pour que Paredes, il se casse. Mais faut avouer que sur 2-3 matchs de Ligue des Champions, il a tenu le terrain. La preuve,
notamment contre le Real, hein, quand il sort, c'est plus compliqué.
Mais il bouge pas beaucoup.
Ouais, c'est ça, c'est son problème. Maintenant.
Paredes, ça peut être un excellent joueur, notamment on le voit en sélection argentine, mais pas pour le PSG, tout simplement, pas pour notre jeu qu'on veut développer, pas pour notre système. Mais peut-être qu'à la Juve, ce sera très bien avec Allegri où tout le monde est plus ou moins des plots.
Non, Rodrigo De Paul, avec De Paul, ça fait un très bon duo, par exemple.
C'est ça, en sélection, ça marche très bien.
C'est très cohérent, mais pas avec Verratti, quoi. Avec Vitinha, j'ai quand même des énormes doutes parce qu'il n'y a pas ce truc de compensation. Quand tu prends la sélection argentine, je pense que tu as De Paul qui est juste plus haut, tout simplement, et tu as Paredes qui est plus bas. Et il n'y a pas ce truc de milieu à deux, en fait. C'est juste, c'est pas.
Ah, ça tire sur Simba d'un balle réel. Bah, très, très bonne transition. Moi, je trouve aussi, après, je vais me faire allumer, mais je trouve aussi que dans la politique actuelle, et le cassage entre guillemets du clan sud-américain, j'ai l'impression que ça fait du bien au groupe. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, il fallait.
Ah si, oui, ça c'est sûr.
Aller trop loin. J'allais trop loin. Les clans, les machins, les trucs. Bon, après maintenant on se retrouve avec une communauté portugaise, mais on la signe parce que, enfin, pour moi, le tête de file de la communauté portugaise, c'est Nuno Mendes. Et comment ne pas être amoureux de ce joueur?
Regardez le match de Montpellier hier, mais punaise, mais quel arrière gauche fait ce qu'il fait? Je vois des trucs, j'ai re-regardé encore le match, mais il est exceptionnel, ce mec.
Et c'est le QI foot, au-delà, la technique, ouais, elle est pas ses atouts, mais c'est surtout son QI foot, sa capacité à comprendre le jeu, de comprendre à quel point il sera utile, comment l'interpréter. Il est capable de jouer en 1-2, il est capable de faire des déviations, il est capable de se recentrer, il est capable de défendre derrière. Il a toutes les qualités, et puis il vient d'avoir 20 ans. C'est un furie classe. C'est pour moi c'est sans aucun doute clairement dans le top 5. Il est peut-être déjà dans le top 5 à son poste, Et dans 2-3 ans, il sera dans le top 2-3 à son poste. Et il est, c'est un monstre. C'est juste un monstre. Et puis au milieu, il y a Vitinha. Enfin, voilà, c'est une petite galette, le Vitinha. Il résout tellement de trucs. On voit les trois devant briller, mais il faut vraiment regarder ce qu'apporte Vitinha. Le surnom, quand il y en a un devant qui redescend, t'as Vitinha qui se propose. Enfin, voilà, la communauté portugaise, ouais, elle fait du bien. Et pour en revenir sur les Sudam, ouais, il y avait vraiment un côté communautaire qui se mettait en place, qui devenait malsain avec des rivalités entre, il y avait une espèce de truc, la rivalité Argentine-Brésil qui se remettait en place dans le vestiaire avec les Français et les quelques autres qui étaient limite sur le banc de touche, sauf Kylian Mbappé parce qu'il est intouchable. Et c'était malsain et oui, il fallait le faire. Il fallait le faire.
Steve, je te réponds rapidement. Je crois que c'est quasi officiel qu'il va à Chelsea. Donc ça, c'est le dossier, il est réglé. Il y a OKOK qui nous a posé la question deux fois. Donc on va y répondre. Et encore une fois, je vais travailler votre mémoire. Double question. L'apport de Sergio Ramos, qui je trouve aussi, qui est pas mal sur le groupe. Et la vraie question, en fait, c'est en attaque, vous avez des noms en tête que vous aimeriez voir. Est-ce que vous privilégieriez un pivot?
Bah, un pivot en 4-2-3-1, j'ai du mal à voir. Ah, un pivot! Ah oui, pivot, putain, j'entendais ailier, moi, je suis, en soi, un pivot, oui, c'est ce qui nous manque. Maintenant, le truc, c'est qu'on a, pour moi, on n'avait pas résolu l'équation et l'équation, elle n'est pas encore résolue, qui est l'équation monstrueuse, qui est comment jouer avec les fameux trois de devant, Messi, Neymar, Mbappé. Et a priori, il semblerait qu'on soit capable de résoudre cette équation, à voir sur des défenses qui sont beaucoup plus rugueuses, ce que ça va donner. Mais, si elle fonctionne, tu vois, enfin, prendre un bon pivot pour te le caler sur le banc. Après, pivot, oui, dans le 4-2-3-1, c'est pile le profil qu'il te faut. Si tu restes sur la définition du 4-2-3-1, ce qui est attendu.
3-4-1-2.
Oui, 3-4-1-2, oui, merci. 3-4-1-2, c'est pile le profil qu'il
faut. T'as le quinté, mais pas dans le bon sens.
Oui, c'est qu'on peut. Mais en l'occurrence, avec les trois de devant, et pour l'instant, les trois de devant apportent satisfaction. S'ils apportent satisfaction contre des défenses un peu plus rugueuses, tu n'auras pas à te poser la question du pivot. Et c'était quoi la première question?
La question, c'était sur Sergio Ramos et son apport sur
le vestiaire. Sergio Ramos, déjà, tous les échos disent que c'est le relais de Christophe Galtier. Sur le terrain, on voit qu'il a un peu une charrette, on voit qu'il a un peu son âge, mais il compense intelligemment, il ramène un peu du vice qu'avait Mota, qui nous faisait défaut depuis si longtemps. Ramos, lui, il a ce vice. Et c'est bien. Et en l'occurrence, il est. Moi, je le trouve bon. Juste un petit peu lent, mais je le trouve très très bon. Et c'est rassurant. Et surtout, on a l'impression. Je sais pas si vous partagez ça. On a l'impression qu'il va au moins pouvoir faire ses 40 matchs dans la saison.
On espère sur Ramos. Sur Ramos, je rejoins ce qu'a dit Dreas sur l'attaquant. On a l'impression que de toute façon, même les dirigeants ont changé. Tu sais, au départ, ils étaient sur effectivement l'idée d'un pivot avec Scamacca. Et là, après, ils étaient plus dans l'idée d'un attaquant de rupture, puisqu'il y a eu la première rumeur Rashford. Ça a parlé de prise de contact pour Léao. Mais c'est vrai qu'avoir un attaquant pivot en sortie de banc dans les gros matchs peut être intéressant. Mais il nous manque quand même un attaquant de pur débordement. Alors, dans ce système,
Non, vas-y, continue. Il a vu Gay.
J'ai pas vu le message. Je disais qu'avoir un attaquant plus de rupture et plus de débordement, ça peut être aussi utile si un jour on devait, dans un match où ça se passe bien dans le système, ne serait-ce qu'à être amené d'animation.
Ça, c'est un vrai débat, ça. C'est un vrai débat, ça. C'est en fait, mais le truc, en fait, qu'il faut prendre, c'est qu'on parle tellement de rien. Qu'en fait, merci Sax. On part tellement loin qu'en fait, on doit d'abord se construire des certitudes sur un système. On est obligé. Mais en soi, tu devrais avoir une autre corde à ton arc sur le papier. Mais le truc, c'est que tu es déjà en train de construire un effectif qui n'est pas encore complet pour un système. Et après, justement, avoir la façon pour pouvoir évoluer. Mais...
Et pour un an, parce que si on ne prolonge pas Messi et Ramos l'année prochaine, c'est encore une fois un nouveau profil. Bon, après, c'est vrai qu'on était sur Bernardo, ça pourrait être le remplaçant de Messi, etc. Mais c'est pour ça que les dirigeants, pour un moment, prennent vraiment des pistes. Même quand tu passes de Ruiz à Soler, c'est pas forcément la même chose. Ils sont plus dans des pistes qui peuvent être intéressantes à un prix donné que sur la
courant d'un profil donné. Et il y a la notion de multitâche. Par contre, j'ai un truc à dire qui est très important, c'est que Djokovic, en fait... Djokovic, donc le joueur, ne peut pas participer au tournoi parce qu'il a refusé de se faire vacciner et donc il ne devrait pas pouvoir participer aux commentaires Donc, Djokovic, prends en compte ta situation vaccinale. Allez, s'il te plaît.
Mettez une annonce sur le bon coin pour qui?
Pour Gay.
Ah, c'est pour Draxler, je pense. Ah, c'est pour Draxler. Ah, on va pas rentrer dans le dossier Idrissa Gueye. On a abordé en large et en travers. Le monsieur, il doit partir. Ça y est. Dans le nouveau PSG, surtout avec un milieu à deux. Non, c'est déjà alors, un milieu à trois.
J'ai compliqué. Une question pour Dryas.
Où? Zaz.
Bonjour, de la bonne humeur.
Merci, parce que je ne connais même pas la chanson.
Bref, toi qui tu dis que tu es dans la ligne Enrique et que tu ne veux pas résilier et payer le contrat des joueurs, est-ce que Gay, c'est différent? Est-ce que tu es prêt à le payer?
Gay, j'ai même pas envie de savoir comment il parle. Je veux juste plus lire son nom. Bon, bah, même avant, peu importe. Hein, même
bah, c'est vrai
avant,
que si Gay devait arrêter, il ne pourrait pas aller jouer en Israël.
Pour l'histoire de la politique, d'ailleurs il fera sans doute de la politique au Sénégal ensuite, hein, Gay. Mais pour l'histoire de la politique, même avant, même dans le jeu, le mec, il a deux bons matchs, et le match contre le Real Madrid, l'équipe du Real était toute pétée, c'est un mec qui déséquilibre en permanence ton bloc, c'est un mec qui fait passer son cas personnel avant l'équipe, pour encore une fois, c'est sa rentrée, je sais plus contre qui, où il rentre de manière honteuse, bah, d'ailleurs contre le Real. Et ouais, parce que contre le Real, je faisais référence au premier match contre le Real. C'est vraiment l'archétype du joueur qui fait passer son cas personnel avant l'équipe. C'est un égoïste dans l'attitude, c'est un égoïste sur le terrain. Et je suis désolé, son apport sur le terrain, même quand il est bien disposé, est à des années-lumière d'être suffisant pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc, Gay, next, allez hop, on arrête d'en parler. Rideau, pouf, dehors.
Vous en pensez quoi de Maxence Lacroix? J'ai passé, Maxime Lacroix. Je sais pas, j'ai eu un message tout à l'heure. Je crois que c'est le joueur de Wolfsburg, c'est un défenseur français, mais je connais pas. Je regarde pas le championnat allemand, donc je vais pas pouvoir répondre.
On va ramener un expert la prochaine fois pour en parler. Attends, il y avait aussi. Est-ce que vous pensez que, à part Zahir Emery, est-ce qu'il y a d'autres titis qui vont avoir du temps de jeu cette saison, selon vous?
Peut-être dans un match de Coupe de France contre une Division 5, il y aura peut-être El Shaddai, Garbi, tous ceux qui sont dans le groupe élite en fait.
Et toi, vas-y, Dorias.
Bah, la même chose, ouais. Tu rajoutes Gassama, tu rajoutes.
Il est prêté, Gassama.
Eman Kari aussi. Mais voilà, il y en a qu'un seul qui, pour l'instant, a clairement tapé dans l'œil des dirigeants. Et même, ils ont du mal à lui trouver du temps de jeu. Alors après, c'est un peu normal après seulement trois matchs. Mais déjà, si on en intègre un, ce serait, et qu'on l'intègre avec intelligence, ça serait un énorme progrès par rapport aux saisons passées. Donc déjà qu'on en fasse un. Après, on verra pour en faire un deuxième.
Il y a pas mal de personnes qui veulent parler des Kitchiké. On n'en a pas vu grand-chose jusqu'à maintenant. Ce que j'ai vu était positif dans l'attitude. Mais en termes de temps de jeu, je ne pense pas qu'on puisse déjà avoir un avis là-dessus.
Je pense qu'ils veulent en parler le fait peut-être que justement, ils ne jouent pas. Maintenant, c'était la Ligue des Champions arrivait très vite, donc les automatismes, c'est l'équipe titulaire qu'il faut mettre les premiers matchs, et on n'avait qu'un match par semaine. Là, on va jouer Monaco demain, et on joue Toulouse mercredi. Donc, je pense que contre Toulouse, Ekitike aura du temps de jeu, sera peut-être même titulaire. Donc là, on pourra se faire un avis. Là, il va pouvoir enfin avoir du temps de jeu. C'était compliqué d'en avoir sur ces premiers matchs où il n'y a qu'un match par semaine.
Et je voudrais réagir au message sur Sarabia. Sarabia a fait un excellent début de saison, le peu de temps de jeu qu'il a pu avoir. Très prometteur. Et pareil. Le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'on est dans un 3-4-1-2. Voilà, merci. 3-4-1-2. Donc, on a trois joueurs devant et t'as trois joueurs devant et ce serait trois joueurs. T'as juste Neymar, Mbappé et Messi. T'as Ballon d'Or cette fois. Un qui aurait toujours envie de le gagner. Un qui va le gagner bientôt. Enfin, comment tu peux ne pas les mettre? C'est juste, ils passent devant puis c'est comme ça, quoi.
Alors, pour votre santé mentale, ne prononcez jamais ce nom dans un live où il y a Simbad, parce que vous allez prendre 15 minutes d'un monologue salé qui va vous expliquer les performances de Guardiola. Alors, pour votre santé, ne prononcez jamais ce nom-là. Et même Basto, il est capable de vous faire un petit monologue de 3 minutes dessus.
Qu'est-ce qu'on en pense? Ce serait une bonne idée. Voilà.
Guardiola, c'est les qualités de Skriniar avec un peu plus de vitesse, mais moins d'expérience.
Et à gauche.
Et côté gauche, voilà. Tout simplement pour faire simple. Si tu connais Skriniar, c'est un monstre. C'est un monstre après en devenir, même s'il a, il a déjà confirmé, mais il a confirmé qu'à Leipzig, c'est quand même un contexte très différent.
Il t'a pas écouté, Novak. Il t'a pas écouté.
Ouais. Et Djokovic. Djokovic.
Novak, je lis plus, moi.
je préfère au moins m'enflammer en août, septembre, octobre, novembre, que pas du tout pendant 2 ans et demi avec Pochettino. Alors tu me laisses tranquille, ça fait 3 mois que je souffre. Et moi, personnellement, les années Tourelle, je ne les ai pas aimées après le Final 8. Donc là, ça fait 3 ans que je souffre. Donc si je peux kiffer août, septembre, octobre, tu me laisses tranquille.
Puis ni Dryas ni moi ne nous sommes enflammés, je crois.
Sur Galtier, non, pas encore. Moi, pour l'instant, je commence à croire à l'équilibre qui est trouvé. Mais je commence à...
Ah, Potores. Mais voilà, si tu fais pas Skriniar, t'as pas Potores. Tu payes la clause, c'est le même prix. Tu le fais, évidemment. J'adore ce joueur.
Pas besoin d'attaquant, préfère un milieu et un DC. Alors, Max a remarqué qu'il est critiqué. Ils essaient de lui faire prendre de la masse. Et que Galtier pourrait faire tourner à partir de Monaco.
Ouais, c'est ce qu'il a dit. Galtier a dit ça hier, effectivement.
Bah écoutez les gars, on est sur 55 minutes, merci de nous avoir suivis. Moi personnellement, j'ai un débrief tout à l'heure sur Foot Central, sur le match de Manchester qui commence dans 3 minutes. Donc si je veux pas faire le fou et dire n'importe quoi, faudra que j'aille regarder le match. Donc,
c'est quel match? United ou City?
United de Southampton, je crois. On a un débrief vers 15h30 sur la chaîne Foot Central. Le match commence dans 3 minutes.
Eh bien, donc, bon match.
Si vous voulez passer après. Hein,
bon match à toi.
Ah, j'ai pas, attends, franchement, je sais pas qui a demandé à faire ce débrief, mais le match de 13h30 Première Ligue et surtout Manchester United, je m'attends à une purge. Je crois que ça va être un débrief de 15-20 minutes juste pour dire les notes des joueurs, mais c'est impossible. Je déteste les matchs de Manchester. C'est 13h30. Faites une moyenne sur tous les matchs à venir. En général, le match du samedi 13h30, c'est toujours une purge. Toujours.
C'est vrai.
Bon. Ben écoutez, je vous dis bon samedi. Demain, on fait un débrief après PSG Monaco. On espère une victoire fleuve avec beaucoup de buts et beaucoup de spectacles, surtout que ce sera au parc. Merci Dryas, merci Basto, merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner ici comme chez Foot Central parce que ça nous aide énormément. Donc faites péter les stats. Ici, c'est pareil. Ciao!